streaming et cette question, le marché du streaming musical va-t-il sauver la musique tout entière ou au contraire va-t-il périr à force de ne rien rapporter à ses concepteurs, voire aux artistes? Nous allons le voir autour de la table des mots de l'info. Bruno Bouteleux, directeur général de l'ADAMI, société de gestion collective des droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes, pour être précis. Bonjour.
Bonjour.
Et Yann Bertrand également, journaliste au service culture de France Info. Bonjour Yann.
Bonjour.
Yann, que représente ce streaming, ce secteur de la consommation de musique en ligne dans le marché global, on va dire, de la musique?
Alors d'abord du streaming, on entend surtout habituellement le nom de ses acteurs, Deezer, Spotify, Apple Music, Tidal. Le secteur est devenu une gigantesque mare concurrentielle avec des parts de marché importantes à se tailler pour chacun de ces grands opérateurs. Concrètement, si l'on reste en France, en septembre dernier, selon les chiffres, l'écoute en ligne avait représenté la moitié des ventes physiques, à peu près 58 millions d'euros de chiffre d'affaires, une hausse importante de 42% quand même sur un an. Sur le plus grand marché du monde, en revanche, qui sont les États-Unis, la part du streaming, elle a également bondi un peu moins. Mais en juin dernier, selon les derniers chiffres disponibles, l'écoute en ligne représentait un tiers des revenus du secteur, autour du milliard de dollars. Et puis le leader, c'est Spotify, avec 20 millions d'abonnés payants revendiqués. Le français Deezer en revendique environ 6 millions et il vient tout juste d'être dépassé par Apple Music, lancé en juin dernier.
Bruno Bouteleux, l'essor du streaming musical, bonne ou mauvaise nouvelle à vos yeux ?
C'est un rêve pour le public, le streaming musical. C'est le moyen d'accès idéal dont on a tous rêvé quand on aime la musique pour avoir accès. C'est quelque chose de formidable. C'est la musique du monde entier accessible d'un clic. Donc du point de vue du public, c'est formidable. Du point de vue des artistes, ça l'est beaucoup moins. Chacun sait les polémiques qui ont pu avoir lieu sur les deux dernières années, qui ont été lancées souvent par de grands artistes qui estimaient que sur le plan du partage, le compte n'y était pas. Et c'est là tout l'enjeu aujourd'hui, c'est la question du partage de la valeur entre ces grands opérateurs qui débarquent sur un marché avec une technologie extrêmement puissante et séduisante et les opérateurs historiques, les acteurs historiques, au premier rang desquels les artistes. Et là, il y a un sujet.
Il y a un autre sujet. Les Français, effectivement, on le voit, sont de plus en plus attirés par le streaming, notamment gratuit. Comment expliquer qu'ils ne passent pas au payant? Si on regarde le modèle du streaming vidéo, on parle beaucoup de Netflix en ce moment, ou même de Canal Play, et on se dit, ouais, pour 11 euros, 12 euros, on a un catalogue assez riche, comme ça, et il y a de plus en plus de gens qui passent à l'acte d'achat. Comment se fait-il qu'en musique, ce mouvement ne soit pas aussi fort et aussi puissant?
Bah écoutez, ça ne m'arrange pas de vous répondre là-dessus, mais il faut bien le dire, le modèle Netflix, si on prend son challenger, enfin non, il est le challenger, pardon, d'un autre modèle, c'est celui de Canal+.
Exactement.
Netflix débarque avec une offre payante d'accès à des films qui est trois fois inférieure à l'offre de Canal+ pour le consommateur. Le panier moyen d'un consommateur français pour le disque, c'est 40 à 50 euros. Quelqu'un qui achète des disques aujourd'hui consacre chaque année 40 à 50 euros en moyenne. Le streaming, c'est 120 euros par an. Donc passer de 40 ou 50 euros par an à 120 euros par an, au seul motif que vous avez accès à un catalogue extrêmement large, pose peut-être un problème, tout simplement, d'étalonnage des prix.
Est-ce que l'offre familiale, ça commence effectivement à se multiplier? L'offre familiale, j'imagine, voilà, vous payez 15 euros, c'est pour 4 personnes du foyer familial, là aussi on peut trouver des solutions.
Ça peut être un commencement de réponse, effectivement. Ouais. Et encore une fois, de la part d'un représentant des artistes, dans une situation un peu bizarre, c'est que je suis obligé de vous dire qu'il y a peut-être un problème économique. Mais malgré tout, c'est une réalité. Regardez ce qui vient de se passer. Qobuz, qui est une offre formidable.
Pépite
française qui propose de la musique en très haute qualité, mais avec le choix d'un 15 euros par mois, je crois, au niveau de l'abonnement. Eh bien, ça ne passe pas. Malheureusement, elle connaît des difficultés économiques énormes. Alors oui, l'offre familiale peut-être, mais après se pose une autre question, c'est celle du partage.
On va en parler, Yann Bertrand, Apple Music, Deezer et même le leader Spotify, c'est le paradoxe, ne gagnent toujours pas d'argent et ils payent cher aussi leur entrée dans ce marché du streaming.
Et oui, on tape souvent sur les opérateurs de streaming accusés en gros de manger la laine sur le dos des artistes en quelque sorte, mais il faut le savoir qu'ils paient quand même cher leur droit d'entrée, vous le disiez à l'instant Jean, c'est un graphique conçu par l'ADAMI elle-même qui résume cette chose-là. Si vous prenez un abonnement d'environ 10 euros par mois pour une écoute illimitée, seulement 6,50 euros environ reviennent dans les poches de ceux qu'on appelle les intermédiaires, une fois les taxes et les droits d'auteur acquittés. Sur cette somme, 70% reviennent aux producteurs contre 30% seulement, entre guillemets, on va en parler, aux plateformes de streaming. Donc impossible d'affirmer objectivement qu'Apple, Spotify, Deezer et consorts se gavent sur la bête sans aucune contrepartie.
Alors Bruno Bouteleux, le partage, on le disait, ben là il y a, ben, le partage, y a aussi un problème.
Mais oui, parce que ce que vous venez de dire n'est pas tout à fait complet. Il manque la part qui revient aux artistes et il faut savoir que cette part sur un abonnement de 10 euros, elle est de 46 centimes que doivent se partager tous les artistes que chaque abonné aura écouté pendant un mois.
Qui décide, qu'on soit bien clair, qui décide de ça? Qui décide des 46 centimes? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est Deezer, Spotify ou pas du tout?
Alors non, le partage entre artistes et producteurs, il revient au producteur. On est dans un schéma où le producteur qui a signé un artiste, eh bien, a obtenu en échange de cette signature la cession des droits de l'artiste. Et c'est normal, il faut pouvoir exploiter des enregistrements. Donc il faut que le producteur ait les mains libres. Sauf que on applique finalement au streaming, qui est un modèle hybride, on va dire, entre la vente de disques et la radio, hein, d'une certaine manière.
Ouais,
nous le voyons comme ça. On lui applique la clé de partage qui s'applique à la vente de disques, c'est-à-dire la vente de biens matériels qu'il faut fabriquer, livrer, stocker, reprendre les invendus, etc., etc. Et finalement, on y applique les mêmes clés de partage. Et c'est là-dessus que nous aimerions que chacun accepte que le curseur puisse bouger pour que, eh bien, le partage soit un peu plus équitable. Sinon, à un moment, vous savez, hein, comme on dit souvent, la force d'une chaîne, c'est la force de son maillon le plus faible. Aujourd'hui, le maillon faible, c'est l'artiste. Pourtant, c'est lui qui motive l'acte d'achat ou l'acte d'abonnement. Ben, si ce maillon, à un moment, il craque, ben, c'est toute la chaîne qui, évidemment, en subira les conséquences.
Oui, d'ailleurs, il y a une artiste hein, qui a fait... Enfin, deux artistes hein, qu'on pourrait citer pour cette année 2015. Taylor Swift qui a fait plier Apple Music hein, et pour avoir, effectivement, un peu plus d'argent pour l'écoute de son nouvel album. Et puis Adele pour promouvoir son nouvel opus 25 qui a fait une opération marketing inattendue. Seul le single était disponible sur les plateformes de streaming. Pas l'album. L'album était à la vente numérique. Pour la chanteuse anglaise, le streaming est une forme, vous le disiez, de radio, tout simplement. C'est la
Absolument.
Radio. Elle a raison.
Oui, d'une certaine manière, elle a raison. On voit bien qu'il y a un choix stratégique qui a probablement été inspiré par l'artiste, mais également par son producteur. Le message envoyé finalement par Adele aujourd'hui, c'est de nous dire que finalement, bah, le streaming aujourd'hui, c'est un modèle à côté d'autres. Le téléchargement n'est pas forcément mort aujourd'hui, mais il faut rappeler aussi que aujourd'hui, l'essentiel du chiffre d'affaires de la musique enregistrée, c'est des disques physiques. Donc la bascule au tout numérique, elle ne s'est pas encore totalement opérée. Et peut-être que nous ne serons pas cette fois-ci, alors que ça a toujours été le cas par le passé, dans un modèle où finalement la nouvelle technologie va quasiment totalement chasser l'autre. On va peut-être arriver finalement vers un modèle
cohabitation.
Où le consommateur aura accès à des modèles qui cohabitent. Le disque physique, il a peut-être encore...
Le vinyle.
Oui, on voit le vinyle.
On n'ouvre pas le débat, mais c'est quand même été le nouveau succès
du vinyle. C'est franchement amusant à observer. Mais voilà, le modèle donc du streaming, à côté de celui du téléchargement, à côté de celui des ventes physiques, et que dire des web radios semi-interactives, que dire des web radios aussi, qui sont très faiblement développées en France, mais qui n'attendent que ça pour se développer.
2016, année décisive, Yann.
Et oui, parce que 2015 a vu l'arrivée d'un nouvel acteur, un majeur Apple, et 2016 sera l'année du modèle à trouver pour le streaming. Ça fait quelques années qu'on le dit hein, quand même. Selon plusieurs projections, c'est en effet l'année prochaine, on en parlait, que l'écoute en ligne dépassera enfin les ventes en téléchargement. On peut l'imaginer, en attendant de dépasser ces fameuses ventes physiques, probablement avant 2020, si le secteur continue à grossir de la façon dont il grossit depuis quelques mois. 2016, ce sera aussi plus d'expérience pour les maisons de disques et les labels qui, cette année, ont de plus en plus misé sur le streaming, à coup d'exclusivité, de contenu additionnel pour vendre leurs artistes en quelque sorte. Et enfin, 2016, ce sera la fin de l'ultimatum né de la signature de l'accord Schwartz en France par nos députés. Les professionnels ont jusqu'à la fin de l'année pour s'entendre sur le montant de la garantie de rémunération minimale promise aux artistes, une disposition essentielle.
En quelques secondes, nous n'avons que quelques secondes, Bruno Bouteleux, 2016, année décisive pour vous ou non? On n'y est pas encore, ce sera plutôt 2020 pour le streaming musical.
2016, année décisive pour le streaming en France. Il faut que les plateformes en direct rémunèrent elles aussi les artistes.
Merci Bruno Bouteleux, directeur général de l'ADAMI, d'avoir répondu à nos questions. Merci Yann Bertrand également.
Merci à vous.
Les mots de l'info, c'est sur France Info et franceinfo.fr.